Bonjour, je suis très heureux de venir vous parler de la Palestine, comme chaque mercredi entre 18h et 19h sur Radio Galère. Cette émission, elle est animée par plusieurs associations qui militent pour la cause palestinienne à Marseille et environ, comme Palestine 13, branche locale de l'association AFPS, Agence France pour la solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi BDS et beaucoup d'autres associations. Avec vous, Samar Saoudi, je viens vous parler aujourd'hui, vous donner les différentes actions qu'on veut mener en octobre, mais aussi, donc il y en a cinq. Je vais commencer par deux, et puis je vais faire passer une chanson pour la Gaza et Palestine. Elle est en français, en arabe et en anglais. Elle est super. Elle est composée par Ahmed Mejri et chantée par Fatma Sfar et même Ahmed Mejri. Ensuite, je reviendrai avec les trois dernières nouvelles avant de vous faire passer donc un agréable webinaire, donc une conférence qui a été animée par Sylvain Sipel et Leïla Shahid pour parler sur le livre de Sylvain Sipel, qui est journaliste à Orion 21, sur l'État d'Israël contre les Juifs et sur la répercussion de l'actualité sur la Palestine. Donc c'est un super échange entre Leïla Shahid, qui était ambassadrice de la Palestine auprès de la Belgique, Luxembourg et l'Union européenne, avec Sylvain Sipel. Pour commencer, le 20 octobre, donc bientôt, dans moins d'une semaine, va débuter la route de Za'atar. Za'atar, pour ceux qui le connaissent, c'est un ensemble de plantes mélangées pour faire une sorte de tisane, mais on ne le prend pas comme tisane, on le prend avec de l'huile d'olive. Elle est très très bénéfique pour la santé. C'est un des symboles de la Palestine, des plats palestiniens. Donc on parle beaucoup de za'atar, on parle d'huile d'olive, on parle de l'Africain, des dattes, et bien sûr de l'orange, etc., cultivés en Palestine. Pourquoi on parle de route za'atar? Parce que je vais l'expliquer comment l'idée elle est née, mais c'est pour distribuer les produits de la Palestine en nord sur la rive nord de la Méditerranée. Cette idée elle est venue d'un échange entre Jean-Marie Donzette et Philippe Audot. Jean-Marie Donzette, il importait depuis 2003 dans son village de Montrosier, près de Rodez, des denrées alimentaires produites par des coopératives agricoles palestiniennes comme ceux que j'ai cités, donc huile d'olive, za'atar, friquet, les dattes, etc. Aussi, il importait des créations d'artisans en Cisjordanie, comme des textiles, des céramiques, des objets en bois, olivier, et ce pour faire connaître un petit peu, promouvoir la culture palestinienne et les valeurs et les énergies de ce peuple qui est terriblement opprimé, mais qui a toujours des capacités de résilience et de résilience hors du commun. Donc depuis 2003, et donc il faisait une tournée en camionnette. Il a continué à faire dans les plusieurs campagnes et des villes françaises, ici en Marseille, mais aussi en France, en Belgique et en Luxembourg. Certes, en 2020, il y a eu le confinement, et pendant le confinement, il y a eu une suppression de beaucoup de points de livraison. Heureusement, pas celui de Marseille. Il y a eu quand même une tournée confinée à Marseille. C'est là qu'il a rencontré Philippe Audot, qui ont eu un échange par rapport à cette distribution, et qui est née l'idée, pourquoi pas distribuer ces produits et d'autres produits en Méditerranée. Donc elle est née l'idée de la route de Za'atar, qui va commencer, le départ aura lieu le 20 octobre 2020, 2021 à 13h, et ce du Moussen. Donc moins d'une semaine. Si vous voulez venir rencontrer Philippe Audot et cette caravane, venez le Mucem à 13h, le 20 octobre. Il s'agit de proposer des croisières alternatives avec des voiliers hors saison, transportant des marchandises produites par des paysans et artisans palestiniens résistant au circuit économique capitaliste, destinés à être vendus ou troqués sur place. Ces marchandises, elles vont être transportées au nord de la Méditerranée. Elles sont issues des importations des produits palestiniens vendus déjà sur le site fipsouk.com, mais aussi, donc c'est ça un petit peu la richesse de ces rencontres, mais aussi ils vendront donc les produits de producteurs ou artisans français, italiens ou espagnols. Donc il y aura donc tout si vous voulez connaître un petit peu l'itinéraire de la route de Zaatar, regardez donc la page Palestine 13 sur Facebook, mais aussi notre site internet assopalestine.org. Ou ça, tapez sur Google donc Association Palestine 13. Mais aussi, une fois, il y aura par exemple comme un grand événement, il y aura un grand week-end à Toulon, à la Seine, le 20 et le 21 novembre, donc du 20 octobre jusqu'à fin novembre. Et aussi, le 28 novembre, il y aura donc l'arrivée à Cassis, et là où il y aura même un débarquement, donc une crèche palestinienne en bois d'olivier de Bethléem, donc sera débarquée. Le 28 novembre à Cassis, cette crèche et les produits donc artisanaux feront partie de l'exposition Crèche et désert dans les salles voûtées de la mairie de Cassis du 3 au 14 décembre. Une conférence musicale aussi des rois hommage aura lieu le 9 décembre et durant cette période, les produits de la route Zaatar bien sûr seront distribués et seront vendus. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez écrire par email sur route-du-zaatar@gmail.com ou tapez Route du Zaatar sur Facebook aussi, vous aurez les informations. Donc c'était la première activité qu'on lancera le 20 octobre et qui va donc s'étaler sur plus d'un mois, jusqu'à même décembre. La deuxième activité, c'est un film qu'on vous invite à voir à la Baleine le 22 octobre à 21h. Le titre du film, il s'agit de Little Palestine, donc la petite Palestine. C'est à la Baleine le 22 octobre à 21h, en présence du producteur Jean-Laurent Sinidis. Il parle de Yarmouk. Yarmouk, c'est un camp de réfugiés palestiniens qui est à Damas. Il a été construit en 1948. Mes parents, moi-même et mes parents, donc on a immigré, donc on a été chassés de Palestine pour venir à Yarmouk, où mes parents ont vécu pendant plus d'une trentaine d'années avant de venir en Algérie puis en France. Donc, comme vous le savez, à Yarmouk, malheureusement, il y a eu les Palestiniens qui ont été à la Nakba, qui ont quitté la Palestine de 1948, qui sont établis à Yarmouk et ont été obligés aussi après, pendant la guerre, ce qui s'est passé en Syrie, d'avoir une deuxième Nakba, un deuxième déplacement. C'est un petit peu l'objet de ce film, Little Palestine. Elle parle de ce camp de réfugiés palestiniens qui s'est étendu au fil des ans jusqu'à devenir un quartier complet de la capitale à Damas. Et durant la guerre civile syrienne, Yarmouk a été le théâtre d'affrontements dramatiques entre l'armée libre syrienne et les troupes de Bachar al-Assad. À la suite de ces combats, le camp a été assiégé par l'armée et la population est restée abandonnée à son sort. Abdallah Khatib, qui est né et a grandi à Yarmouk, a pris sa caméra pour filmer le quotidien du camp avant d'être chassé lors de la prise de contrôle de la ville par Daesh. Ces images et ces mots, ils vont documenter la résistance farouche d'une ville contre ses plus grands ennemis, que sont l'isolement et la faim. Le réalisateur filme le peuple avec amour et engagement et montre le combat de la dignité contre le désespoir, il montre aussi de la solidarité contre la défaite. Ce long métrage d'Abdallah Al-Khatib est un monument. Il démontre la résilience d'un peuple pris dans une tragédie qui se répète malheureusement continuellement, je l'ai expliqué. Tourné sur 4 ans, Yarmouk, journal d'un quartier assiégé, c'est un témoignage précieux d'une réalité oubliée par nos chaînes d'information. Donc je vous invite à le voir le vendredi 22 octobre à 21h à la Baleine. Donc c'est le moment maintenant de passer la chanson pour Gaza pendant quelques minutes, 2 minutes. Et je reviendrai pour vous annoncer les autres nouvelles et actions. Merci.
cette chanson en Palestine.
Yeah. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, d'espoir. Ya Allah et Kéri. Ya Allah et Kéri.
ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
Bonjour, donc avec vous donc pour une heure en Palestine sur Radio Galère, on continue donc à vous donner les actions qu'on souhaite mener en octobre pour la cause palestinienne. Donc le 23 octobre, il y aura donc une manifestation pour la libération de Georges Abdallah à Lannemezan. Lannemezan, c'est devant le centre pénitentiaire où est détenu Georges Abdallah. Georges Abdallah, il est détenu depuis juillet 87, donc ça fait 37 ans. Il est condamné à perpétuer sans peine de sûreté pour complicité d'assassinat. Donc il est utile de rappeler le contexte à l'époque du Proche-Orient. Donc Abdallah a été victime d'une lamentable vengeance d'État. Ce mot il est qualifié par Yves Bonnet, alors directeur de la DST. Il est pourtant libéral. Libérable selon le droit français depuis 1999. Donc depuis 1999, Georges Abdallah devait sortir et malheureusement il est encore détenu et malgré toutes les actions qu'on est en train de mener pour sa libération. Donc cette manifestation elle vient clore le mois international d'action lancé du 24 septembre au 23 octobre de 2021 qui était parmi les grandes demandes, c'est cette libération. Il est bien entendu qu'une signature est impérative dans ce dossier, c'est celle du ministre de l'Intérieur. Malgré deux libérations accordées en 2003 et 2013 par le tribunal d'application des peines et de l'affirmation écrite d'un accueil favorable au Liban, la libération de Georges Abdallah reste conditionnée à cette signature d'un arrêté d'expulsion du territoire français. Donc tout ce qu'on demande, c'est signer lui cette expulsion et laissez-le retourner chez lui en Liban. En janvier 2013, donc Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur, refuse de signer cet arrêté. Le 5 novembre 2014, une nouvelle demande de libération est déclarée irrécevable au motif qu'elle n'a pas fait préalablement l'objet d'un arrêté d'expulsion. Alors oui, aujourd'hui, s'il y a une injonction à faire, c'est bien celle du président de la République ordonnant à son ministre de l'Intérieur, de paraffer ce document pour qu'enfin justice soit rendue à Georges Abdallah et qu'il soit libre. Donc il faut que cet arrêté soit signé par le ministre. Aussi, le 27 octobre, on vous invite à venir au nouveau siège du local de la librairie Transit. Pour assister à la présentation d'un livre, écrit par Thomas Vescosi, auteur de L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, donc paru à la Découverte en 2021. Donc c'est un nouveau bouquin, donc qui sera présenté au nouveau local de la librairie Transit, au 51 boulevard de la Libération, 13001 Marseille. Il va parler, ce livre raconte l'histoire des mouvements progressistes et révolutionnaires israéliens. Il se pose la question, une grande question, est-ce qu'il existe encore une gauche en Israël? Car, comme on le sait, elle a joué un rôle central dans l'histoire d'Israël, au cœur de la création de l'État. Elle est restée majoritaire au Parlement pendant plus de 30 ans, mais depuis la fin 70 et plus encore après l'assassinat de Rabin, d'Ishak Rabin en 95, les partis de gauche traversent une crise profonde face à la poussée des courants ultranationalistes et religieux droite en Israël. Donc, ils ont même multiplié les alliances, des fois contre nature, pour s'assurer une représentation parlementaire. Donc, Thomas Vescosi viendra le 27 octobre à la librairie Transit à 18h30 nous raconter davantage sur cette gauche ultra divisée et presque qui disparaît. Enfin, donc, comme nouveauté, avant de vous faire passer l'échange entre Leïla Shahid et Sylvia Sipel, on vous invite à l'Alhambra le mercredi 27 et 29 octobre à 21h pour voir le film Gaza mon amour. Gaza mon amour, il parle donc de la bande de Gaza. Malgré ses coupures d'électricité, son siège depuis une douzaine d'années. Il y a des gens qui résistent et qui continuent à ne pas vouloir la quitter, tel que l'exemple de Issa le pêcheur. Issa le pêcheur, il a 60 ans. Il n'imagine pas voir son avenir ailleurs que Gaza, surtout qu'il est secrètement amoureux d'une couturière, Sihan. Donc il continue à vivre à pêcher dans l'espace qui est autorisé, qui est réduit de jour à jour par l'armée israélienne. Il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet et cette statue va lui compliquer la vie et ses projets, surtout quand les autorités locales en découvrent l'existence. Je ne vais pas en raconter davantage. Je vous invite donc à visionner, à voir le film de Gaza mon amour, mercredi 27 et 29 octobre à l'Alhambra à 21h. Et j'ai laissé le plus beau à la fin. Donc, c'est l'échange entre Leïla Shahid, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de la Belgique, Luxembourg et l'Union européenne, avec Sylvain Sipel autour de son livre « L'État d'Israël contre les Juifs ». Sylvain Sipel est journaliste à Orient 21 et ancien correspondant du Monde en Israël, Palestine. Et il a vécu en Israël et en France et aux États-Unis, donc il connaît les trois sociétés. Il est très apte à nous raconter les nouveautés et l'influence de l'État Israël et son implication sur le devenir des Juifs en Israël et partout. Mais aussi, il parlera avec Leïla Shahid brillamment sur l'actualité en Palestine et l'implication de l'élection présidentielle américaine du dernier mois, du 3 novembre, de la crise sanitaire et autre chose. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Galère. Au revoir.
Voilà, bonsoir tout le monde. On va commencer la conférence. Ça y est, on est bien en ligne. C'est la première année qu'on organise une conférence pour la Journée des Nations Unies, pour la solidarité avec le peuple palestinien, en conférence par webinaire, donc en digital. Ça fait chaque année on l'organise, et là, ça fait un peu bizarre de vous retrouver juste par écran interposé. Je suis ravie de vous accueillir ici, et je salue tous les membres qui sont connectés, ainsi que les amis de France, aussi via la plateforme des ONG françaises. Je ne vais pas présenter longuement les orateurs parce que vous les connaissez très bien. Leïla Shahid, qui a été à Bruxelles ambassadrice pour la Belgique, pour le Luxembourg et pour l'Union européenne. Et Sylvain Sipel, qui est journaliste, auteur de nombreux ouvrages et journaliste à Orient 21. Mais ça, je vais laisser Leïla le présenter plus longuement. Donc moi, je vous retrouverai en fin de conférence pour les questions-réponses. Et je vous souhaite une très belle conférence. Et à tout à l'heure. C'est à toi, Léa.
Merci, Nadia. Merci, Nadia. Vous m'entendez tous? Est-ce qu'ils m'entendent, Nadia?
Oui, bien sûr.
OK. Alors, bonsoir tout le monde. Je vois des noms. Je vois Sus Van Elsen et Maria qui viennent de rejoindre. Je vois Hassan Balaoui. C'est vraiment une géniale invention, le webinar. Et je voudrais te remercier, Nadia, parce qu'en fait, cette conférence ne devait pas être par webinar. Je devais venir avec Sylvain en mars pour la Journée de la Terre. Parce que lorsque j'ai lu ce livre qui est sorti exactement au moment du confinement, j'ai tout de suite dit à Sylvain, il faut à tout prix le présenter au public belge, à nos amis belges qui seront très intéressés. Et nous avons pris date avec Nadia pour une conférence en public avec vous tous à Bruxelles le 30 mars. Et bien sûr, on a été confinés le 17 mars, donc on n'a jamais tenu la conférence. Et donc, on est passé de la Journée de la Terre à la Journée internationale de sanité qui va être demain. Donc, je suis très heureuse qu'on le fait quand même, parce que je pense que ce livre remarquable de Sylvain Sipel, absolument remarquable, pas que celui qui l'a précédé n'était pas remarquable, Les Emmurés, qui est sorti, en quelle année il est sorti? En 2005.
En 2006.
Et donc, je l'avais déjà trouvé très bon. Et je voudrais remercier ton éditeur, La Découverte, de t'avoir poussé à faire un deuxième qu'eux qu'on considère comme une suite, que moi je considère comme un outil tellement important pour rendre l'évolution de la lecture de la politique israélienne, de la société israélienne, de l'histoire contemporaine israélienne plus intelligible, plus compréhensible. Et donc, je suis très contente qu'on puisse le faire. Je suis en particulier contente aussi parce que il a fallu que je te tire, parce que tu es quelqu'un qui pêche par un excès de modestie, ce qui est rare de nos jours. Tu es un très grand journaliste, à mon avis, personnellement, et moi, je lis beaucoup la presse. Je connais les copains, je connais Sylvain Sipel seulement depuis 38 ans, figurez-vous. Ça donne une idée de nos âges, tous les deux. Et je pense que tu as... il travaille aujourd'hui à Orient 21, vous pouvez le lire à Orient 21, vous connaissez Orient 21, fondé par Alain Grèche. Il a travaillé aussi au Monde pendant très longtemps, une grande partie en France, en couvrant Israël, mais aussi aux États-Unis pendant 6 ans à New York. Et il a été le rédacteur en chef aussi de Courrier International, qui est un magazine que j'apprécie beaucoup parce qu'il traduit la presse internationale. Et je trouve que Sylvain n'est pas assez connu en Belgique, pas assez connu dans les pays qui s'intéressent à la Palestine, où il y a des organisations comme la plateforme le connaît parce qu'il est français, mais dans des pays où il n'est pas nécessairement dans la presse quotidienne, mais là où nous avons des amis francophones qui peuvent le lire, c'est important de faire connaître son travail et ce livre en particulier. Vous savez, comme vous d'ailleurs, nous lisons beaucoup de choses sur Israël, et je ne pensais pas, lorsque j'ai commencé à le lire, lorsque Sylvain m'a dit qu'il était en train de l'écrire, jamais je n'ai pensé que j'allais être accrochée au livre comme ça, parce que je pensais savoir tout sur Israël. Et je trouve que ce livre arrive à un moment extraordinaire, parce que c'est le livre aussi de Sylvain à l'étape de sa vie. Si vous lisez les magnifiques premières pages où il parle de son père pour la première fois, lui qui ne parle jamais ni de Solange, ni d'Ariel, ni de ses filles, soudain, dans les premières pages du livre, je pense que c'est très important à un moment donné, même pour les journalistes, les historiens et les sociologues, de personnaliser un peu. Vous comprendrez le cheminement de Sylvain, qui a eu une vie israélienne, et une vie française et une vie américaine. Et que ce sont ces trois possibilités, c'est le fait qu'il a fréquenté les langues, les sociétés, les milieux, qui fait qu'il a une capacité de comprendre Israël de l'intérieur, mais aussi de la diaspora, parce qu'il est redevenu un juif diasporique après avoir été un juif israélien. Et il est français aussi, et il est surtout un citoyen du monde. Et je trouve qu'en ayant toutes ces caractéristiques, et en venant d'un milieu yiddish, puisque son père est originaire d'Ukraine, je pense, n'est-ce pas, Sylvain, d'Ukraine.
Absolument, oui.
Je pense que ça lui donne une perception. Malheureusement, son papa n'est plus là, puisqu'il est décédé en 2000, mais je ne veux pas le paraphraser ni vous le lire, mais lisez les premières pages de l'introduction du livre. Elles m'ont beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, je dirais que pour moi, Sylvain, ce que je voudrais que tu fasses avec tous nos amis, parce que tous ceux qui t'écoutent ont été des amis pendant 10 ans en Belgique et beaucoup sont en France aussi, je voudrais que tu parles. Le livre, pour moi, il a 2 pôles. Le premier est, comme j'ai dit, une analyse de comment on est arrivé là où on est aujourd'hui, ce qui est quand même grave. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël est très grave pour les Palestiniens, mais avant tout pour les Israéliens et pour tous ceux qui sont dans la diaspora concernés par Israël. Et je voudrais que tu leur parles de comment tu analyses dans tous les premiers chapitres. Et puis, il y a quelque chose qui tombe bien avec ce que nous vivons maintenant avec la défaite de Trump et l'élection de Biden. C'est que tu as une très bonne connaissance des États-Unis puisque tu as travaillé comme journaliste à New York pour le journal Le Monde et tu l'as très bien couvert d'ailleurs, mais aussi tu connais très bien la diaspora juive américaine et les mouvements de jeunes, les nouveaux mouvements politiques des jeunes juifs. Donc, commençons peut-être par raconter à nos amis, comme tu veux, parce que c'est toi qui vas parler beaucoup plus que moi, toute l'idée est de faire connaître ce travail. Et voilà, je vais me taire, ce qui est difficile, mes copains savent, mais je vais même m'être muet pour me taire.
Non, mais alors j'ai juste une question. Je ne vais quand même pas parler pendant 1h15 maintenant. Il faudra
non,
bien.
Non, moi,
non, je vais commencer comme ça. Ah, j'entends plus. Je n'entends plus.
Oui, tu n'entends plus parce que je me suis faite muette moi-même, ce qui est une très grande concession. Mais je te dirai, t'inquiète pas. Bon, on échangera, je commenterai, non, commenteras, ce que tu veux. Maintenant, bon, vas déjà commencer par parler d'Israël aujourd'hui. Et je vais me mettre au muet pour qu'il n'y ait pas d'écho.
D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, j'ai sorti ce livre qui s'appelait « Des emmurés », que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui était une forme de bilan sur... Ça venait juste après l'échec des négociations de Ken David, et ensuite l'intifada. Et quand j'ai rédigé ce livre en 2003-2004, j'ai assez vite compris que l'intifada allait échouer. Elle n'a pas échoué complètement, mais on n'est pas là pour parler de cette période-là, mais j'ai fait ce livre à cette époque-là. Et ce que je voulais faire comprendre, c'était l'évolution à la fois du sionisme dans son rapport à son environnement et l'évolution de cette société israélienne qui, au fond, n'avait pas été capable de trouver la voie d'un accord qui était indubitablement à portée de la main s'ils avaient été en capacité de comprendre quels sont les enjeux fondamentaux pour les Palestiniens. Ils n'en ont pas été ils en ont été incapables. Et de ce point de vue-là, et les Américains qui étaient supposés faire le lien entre eux en ont été tout autant, précisément parce qu'ils étaient beaucoup trop proches des Israéliens. Et donc, j'ai fait ce livre qui s'appelait « Les emmurés » et qui était essentiellement une analyse de la manière dont le déni domine la société israélienne. Et donc, je vais donner un exemple du déni. Dès que la guerre appelée la guerre d'indépendance qui débute en fait avant l'indépendance, mais qui débute formellement le jour de la création d'Israël. Lorsque cette guerre se termine, Israël a élargi son territoire de 50%, un peu moins, et Ben Gurion, qui est alors le créateur de l'État, convoque un certain nombre de personnes. Et il charge un historien israélien, qui s'appelait Dinour à l'époque, d'écrire les manuels d'histoire pour les enfants. Et il leur dit, nous n'avons jamais expulsé un seul arabe. Ils sont partis volontairement. Et ça devient le mantra du sionisme. Moi, j'ai été dans un mouvement de jeunesse sioniste à l'âge de 9 ans. Et j'y suis resté jusqu'à mon à la fin de mon adolescence jusqu'à ce que j'ai 18 ans, 19 ans. Eh bien, c'était le dogme. Il n'y avait pas eu d'expulsion. C'est-à-dire, c'est un déni. Et quand le journal, l'éditeur l'a découvert, donc je raconte ce déni de manière très développée dans Les Emmurés, qui est ce premier livre. Et je raconte comment il se manifeste, par de mille et une façons. Et puis, quand, à peu près en 2015, l'éditeur La Découverte m'a dit « Tu devrais faire un autre livre. » Au début, j'ai dit non. Parce que j'ai dit « Moi, je ne fais pas un livre de news. Je fais un livre d'analyse des situations. » Et malheureusement, ce qui est effroyable dans le conflit israélo-palestinien, c'est que tous les jours, il se passe quelque chose et en fait, il ne se passe rien. Jamais. C'est-à-dire que le fond de la situation ne change pas, n'est pas modifié. Et donc j'ai dit non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis petit à petit, ça a mûri. Et ce qui compte, c'est pourquoi ça a mûri. Je donne un exemple dans le livre, donc, L'État d'Israël contre les Juifs. C'est un film qui a été fait par une cinéaste israélienne. C'est un film qui s'appelle Manchieh. Manchieh, c'était le nom d'un quartier de Jaffa. À Jaffa, plus de 90% de la population a été expulsée. Il n'a pas été expulsé après que la guerre avec les pays arabes commence. Il avait déjà été expulsé. La population avait été expulsée plusieurs semaines avant la guerre. Donc, il y avait une guerre civile interne. Et donc, dans ce village, dans cet endroit, ce quartier de Jaffa, ont été logés beaucoup d'immigrants juifs, dont des Marocains, beaucoup de Marocains, mais il y avait des Roumains, il y avait d'autres, des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, essentiellement des Marocains. Et un jour, à la charnière des années 60 et 70, il y a eu une décision de transformer ce quartier en un quartier qui était très proche de la mer, et donc ils voulaient faire une très belle plage, un quartier pour touristes, un quartier commercial. Donc on a rasé. On a laissé deux choses, la mosquée et il y avait un musée pour l'Irgun, l'organisation Etzel, l'organisation d'extrême droite, disons de la droite nationaliste sioniste. Tout le reste a été rasé. Et à un moment, dans son film, il y a un professeur d'université avec un groupe d'étudiants qui viennent visiter ce quartier. Et puis, ils ont un guide qui est donné par la mairie pour leur faire visiter. Et le guide raconte comment on a expulsé les gens dans les années 60-70 pour construire un quartier commercial. Et à un moment, le professeur dit « Mais monsieur, vous oubliez de dire quelque chose. » Alors le type dit quoi ? Ben, il dit « Avant qu'on expulse dans les années 60 ces juifs, qui d'ailleurs ont été indemnisés, on a expulsé 90% de la population, dont tous les habitants arabes du quartier, en 1948, et personne n'a été indemnisé. » Et alors le guide dit « Oui, mais pourquoi voulez-vous que je parle de ça ?» Ben, le type dit « Ben, parce que c'est une vérité historique, c'est l'histoire. Si vous parlez d'histoire, il faut en parler. » Et le type dit en anglais « Fuck history ». J'emmerde l'histoire. Et il dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Monsieur, c'est comme ça. Alors là, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, quelque chose s'est passé en Israël. Parce que, avant, quand on dénie un crime, on dit, nous ne l'avons pas commis, nous n'avons expulsé personne. Bien sûr, c'est problématique. Les gens savaient bien qu'en 48, il y a eu peut-être quelques bavures, des choses comme ça. Mais on est dans une posture où nous n'avons pas commis de crime. Ce déni est très problématique parce qu'il empêche d'accepter l'autre et d'entendre sa version. En même temps, qu'est-ce que dit ce crime ? Qu'est-ce que dit ce déni ? il dit on n'avoue pas le crime. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on l'avoue, alors nous ne pouvons plus clamer être les victimes. Nous ne pouvons plus prétendre que c'est nous les victimes. Et donc, 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, ce type de la mairie dit « Mais j'emmerde l'histoire ». Et il représente une mentalité israélienne actuelle qui est massivement partagée dans la population. Vous rencontrez énormément de gens qui vont vous dire « Mais bien sûr qu'on les a expulsés ». Et vous savez quelle a été la plus grande erreur de Ben-Gourion ? C'est de ne pas expulser tout le monde. Il fallait expulser ceux qui sont devenus arabes israéliens, il fallait prendre tous les territoires, il fallait prendre la Cisjordanie, il fallait prendre Gaza. À l'époque, on aurait dû le faire, il fallait expulser tout le monde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on assume le crime. On n'a pas de problème à le reconnaître. C'est une mentalité extrêmement différente. Ça n'est pas le principe du déni. Dans le principe du déni, on veut préserver une forme d'une image positive, une image humanitaire. On se fout totalement de préserver une image. On considère qu'on est dans son bon droit. Cette terre nous appartient et que le monde entier peut aller se faire foutre. Là, il y a un tel changement que à un moment, je me suis dit, je vais le faire, ce livre. Je vais le faire. Et je vais raconter ce basculement. D'où il vient, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que c'est ça qui m'a motivé à faire ce livre.
Est-ce que je peux te demander comment tu qualifierais la situation actuelle? Ça veut dire que la manière de lire l'évolution en Israël se limite la plupart du temps à nommer les membres du gouvernement, à dire que ce sont des religieux, des ultra-droites, à attribuer tout à Netanyahou. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est ce que tu analyses dans la texture sociale de la société israélienne. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, en l'espace de à peine 50 ans, qui est depuis l'occupation de 67, comment est-ce qu'un pays où la gauche travailliste que tu connais bien, puisque ton père vient de cette tradition-là, tu as commencé par en faire partie avant d'aller vers des positions beaucoup plus radicales du Maspen, comment tu expliques qu'en l'espace de 50 ans, dans un pays qui est très politisé, moi aussi j'ai beaucoup circulé en Israël, comment est-ce qu'on peut passer de ce genre de culture, en tout cas pour les jeunes, pour les militants, pour les intellectuels, comment on peut passer de ça à une forme d'idéologie raciste, ou en tout cas de la tolérer, puisqu'on n'entend pas leur voix, ceux qui ne veulent pas de cette idéologie, qui aujourd'hui se fait appeler un système d'apartheid. Alors, dans le monde entier maintenant, c'est ce qu'on dit, le nouvel apartheid, il n'est plus en Afrique du Sud, il est en Israël.
Il y a une chose qui me paraît...
Comment on passe de l'un à l'autre en moins d'un demi-siècle?
Eh bien, ça s'appelle l'occupation. Quand Israël expulse, il faut se souvenir quand même qu'Israël, dans la guerre d'indépendance, expulse 87% de la population qui habite sur le territoire qu'elle va occuper ensuite. Ils expulsent quasiment tout un peuple. Ils restent, et dans la population israélienne, une fois qu'on a compté les nouveaux immigrés qui arrivent, disons, dans les trois premières années, entre 48 et 50, la population palestinienne qui reste, c'est moins de 10%. Aujourd'hui, c'est 20%. Mais à l'époque, c'était 10%. Jusqu'en 67, on peut dire d'abord que les Palestiniens n'existent pas, on peut dire... Et cette population, pas seulement parce qu'elle est vaincue, mais c'est une population extrêmement minoritaire. Extrêmement minoritaire. Ce n'est pas un peuple. À partir de 67, il y a un basculement dont les Israéliens, en grande partie, ne sont pas conscients. À partir du moment, au moment où Israël envahit la Cisjordanie et Gaza, à la fin de la guerre, il se retrouve dans une situation où il y a 60% sur un territoire commun, puisque les Israéliens domine la totalité de ce territoire, on se retrouve avec 40% de Palestiniens et 60% d'Israéliens. Déjà, le rapport démographique n'est plus le même. Et il a, malgré 1 million de Juifs soviétiques qui sont venus, malgré le sionisme qui essaie de faire encore venir du monde, etc., aujourd'hui, les deux populations, si on prend le territoire qui réunit Israël et la Palestine, aujourd'hui, ces deux populations sont absolument équivalentes. Un peu plus de 6,5 millions de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? En 50 ans d'occupation, vous avez une population israélienne qui, aujourd'hui, disons, les gens qui n'étaient pas encore nés ou qui avaient moins de 12 ans à l'époque, représentent entre 85 et 90% de la population israélienne actuelle. 50 ans ont passé. Ces, disons, 85% n'ont jamais connu une autre situation que celle de l'occupation d'un autre peuple. Et ils ont vécu avec cette occupation et avec cette occupation perçue comme légitime. Donc, ce que voulait éviter le sionisme, est un mouvement à caractère colonial, mais ça n'est pas la colonisation de l'Algérie. C'est une colonisation non pas de peuplement, mais c'est pas une colonisation économique. Il ne s'agit pas de faire suer le burnous. On ne vient pas pour faire travailler les Arabes à notre place. Non, on veut créer une société intrinsèque sans Arabes dans lequel c'est nos ouvriers à nous qui travailleront. Donc, et ils y arrivent de manière assez remarquable en 48, c'est-à-dire qu'ils expulsent tout le monde. Ils créent la fameuse société juive dont ils rêvent et qui reste juive. À partir de 67, même s'ils décident de transformer les Palestiniens qui vivent à côté d'eux ou même avec eux en ombre transparente, invisible, on n'en parle pas, on ne se préoccupe pas d'eux. On les réprime quand c'est nécessaire. Mais c'est tout. Mais cette situation est bouleversée. En réalité, il y a 50, progressivement, il y a 50-50. Et donc, on s'habitue à l'idée de l'oppression d'un peuple sur un autre. Nous sommes légitimes et ils ne le sont pas. Tout ça va fabriquer des mentalités nouvelles. C'est ça qui va se passer. On va progressivement justifier. Alors, ça va être des justifications pour les religieux, c'est assez facile, c'est Dieu nous a donné cette terre, elle est à nous, et voilà. Et comme ça, la question est réglée. Et quand on est laïque, on trouve toutes les bonnes raisons sécuritaires, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on voudra trouver comme raison. Le fait est que non seulement on ne rend pas les territoires, mais en plus, on les colonise en permanence et on expulse les populations et on fait tout pour rendre la vie impossible aux gens. Ça crée une situation qui est assez simple aujourd'hui. Le centre de la vie politique israélienne a disparu. Aujourd'hui, les gens du Parti travailliste parlent comme parlaient les gens du Likoud il y a 30 ans. Pareil. Aujourd'hui, tout ce qui était le centre de la vie politique n'existe plus. Il y a eu une droitisation absolument sidérante qui a commencé, on oublie, ça n'a pas commencé avec l'intifada. Mais ça s'est renforcé de manière énorme avec l'intifada. Donc à partir de 2000. En fait, l'arrivée de la droite coloniale au pouvoir, c'est 1978, c'est Begin. Mais ça commence, mais le vrai basculement, c'est à partir de 2000. C'est la seconde intifada. Et de ce point de vue-là, vous avez une société où vous avez d'un côté, disons, allez, 85% des Juifs israéliens qui sont des gens qui sont complètement embrigadés, y compris à leurs propres dépens et à leurs propres défauts, mais qui sont embrigadés dans une mentalité coloniale. Je peux vous raconter une histoire, vous allez comprendre tout de suite. C'était juste au début de la seconde intifada. Moi, j'ai une cousine qui habite à Jérusalem. Elle est un peu plus âgée que moi, ils ont 3 enfants, etc. Donc, j'étais pour Le Monde, j'avais été envoyé pour couvrir l'Intifada. Mais un soir, j'avais du temps, j'ai été la voir. On commence à discuter et au bout de, je sais pas, 20 minutes, elle me dit, bon, écoute, elle n'était pas, évidemment pas du tout d'accord avec moi et avec ce que je disais. Elle me dit, écoute, on s'aime beaucoup par ailleurs. Donc, elle me dit, bon, on va arrêter de discuter. Je suis incapable de discuter avec toi parce que toi, tu baignes dans la politique et dans l'histoire et dans tout ça. Et tu en connais 10 fois plus que moi. Donc, je ne peux pas discuter, je peux pas te répondre. Je n'ai pas les moyens de te répondre. Mais je vais te dire. Moi, je vais te dire qu'est-ce que moi, je pense profondément. Là, je lui dis, vas-y. Et elle me dit, moi, personnellement, je suis d'accord pour la paix. Je suis d'accord pour rendre tous les territoires, sans exception, y compris Jérusalem. Je m'en fous s'il y a la paix. Je suis d'accord, j'ai une seule condition. Alors je lui dis, c'est quoi ta condition? Et elle me dit cette phrase, ils nous prennent tous nos Arabes. Donc, on expulse la totalité de la population israélienne, arabe israélienne, et on la fout de l'autre côté. Donc, on vit tout seul. Il n'y a plus d'Arabes chez nous. On est juste entre juifs. Quand elle dit on vire tout, ils nous prennent tous nos Arabes, je vous assure, peut-être que je suis naïf, mais elle n'est pas, c'est pas une femme raciste. Ça n'est pas une femme raciste en ce sens que elle n'a pas d'hostilité particulière pour les Arabes, pour les Noirs. Non. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre dans un entre-soi. Personne d'autre. C'est une pensée totalement ethniciste. Elle ne sait pas que c'est mal. Elle ne sait pas que c'est un racisme insupportable. Elle ne sait pas qu'il y a des gens... Parce que si d'autres gens lui faisaient ce qu'elle veut faire aux gens, aux Arabes, les Arabes, elle les prend, elle les déplace. Ce n'est pas des gens qui vivent, ce n'est pas des gens qui ont des vies, qui ont des amours, qui ont des difficultés. Non, on les prend, on les met ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une évolution de toute la population. Donc, la disparition de ce centre a généré deux choses. Un énorme renforcement de la pensée coloniale et de la culture coloniale. Disons 85% de la population. Parce que ma cousine, ce n'est pas du tout une extrémiste coloniale. En fait, elle s'en fout de la colonisation. Elle ne veut pas voir d'arabe. C'est tout. Mais il y a les autres 15%. Et les autres 15%, eux non plus ne sont pas restés sur place. Moi, il y a 45 ans, quand j'étais militant politique en Israël, je me rappelle, j'étais à la première manifestation devant la Knesset contre la guerre d'occupation en 1969, donc 2 ans après, il y avait 80 personnes. C'est tout. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'Israéliens qui disent il faut se tirer des territoires, ça va être la catastrophe. Et ça va être notre perte et notre fin. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais ça n'a aucun avenir, cet apartheid. Ça n'a aucun avenir. Certains sont des militants formidables, ils sont à Breaking the Silence, ils sont à B'Tselem, ils sont dans plein de... Il n'y a plus d'organisations politiques. Mais il y a énormément d'ONG qui sont très courageuses. Ils sont aussi très minoritaires et ils sont aussi très ostracisés. C'est ça que j'ai essayé de décrire dans le livre. C'est ce basculement du déni vers l'assomption du crime et comment cette société évolue et bascule très massivement dans une pensée coloniale, mais aussi les pôles de résistance se renforcent. Moi, je n'ai pas connu ça. Il n'y avait pas un journaliste à mon époque qui écrivait dans Haaretz ce qu'écrit Gideon Levy. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a des gens comme Gideon Levy, comme Amir Haaretz, mais comme d'autres qui racontent et qui font leur travail de journaliste. C'était impensable il y a 40 ans. On ne lisait jamais ce qu'ils écrivent. Donc, il y a les deux. Alors, il ne faut pas comparer les deux. C'est-à-dire, le mouvement à droite coloniale est immensément plus puissant. Mais il ne faut pas ignorer l'autre.
Sylvain, est-ce que tu peux nous identifier ces jeunes et moins jeunes, femmes, hommes, de toute origine, que nous voyons sur les images, puisque personnellement je ne peux plus aller en Palestine pour le moment, qui manifestent depuis plusieurs mois, toutes les semaines, par milliers.
Oui, donc, mais
C'est vrai que c'est un mouvement qu'on n'attendait pas. Et bien sûr, le corona a été, en tout cas, la terrible gestion de Netanyahou du corona, les trois procès auxquels il fait face, sa corruption insupportable, son amour pour Trump, qui l'a quitté malheureusement pour lui, est tel que ça a alimenté. Mais identifions-nous qui ils sont, ces Israéliens.
Alors, bon, d'abord, il faut que je dise une chose, c'est que ça fait, à cause du corona, précisément, ça fait maintenant plus d'un an que je n'ai pas été en Israël. Donc, je n'ai pas vu ces manifestations et je n'ai pas travaillé. Donc, mais je crois qu'il faut faire attention. Il y a une hostilité politique, mais il y a une hostilité plus populaire. Et il y a une hostilité, personnelle à Netanyahou.
Une hostilité
plus populaire. Populaire.
Okay.
Populaire. Voilà. Qui n'est pas vraiment politique. La question, justement, Nidon Levy a fait un papier, ces gens sont formidables, ils veulent que Netanyahou s'en aille parce que c'est vraiment un corrompu, etc. Et ils n'ont jamais un mot à dire sur qu'est-ce qui se passe à 20 km de chez eux, en Palestine. Et ils se taisent. Bon, c'est un mouvement. Alors, je pense que parmi eux, il y a aussi une opposition de gauche, parmi ces gens-là. Mais je pense que la masse est essentiellement... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus du comportement de Netanyahou. C'est un comportement... D'abord, il est avéré quand même qu'il est très profondément corrompu. Il y a une affaire qui est peut-être la pire de toutes, pour laquelle il ne sera vraisemblablement pas jugé. Qui est une affaire... C'est la vente d'un sous-marin... aux Israéliens, qu'il a fait contre la volonté de l'état-major israélien, et qu'il a fait par une opération qui est passée par un cousin à lui au Texas. Enfin, évidemment, il a eu il a reçu des commissions invraisemblables. Donc, de ce point de vue-là, il y en a trop maintenant. Il est un peu comme Trump. C'est-à-dire qu'il a une base, qui sont des gens d'une fidélité absolue. Comme Trump, il avait dit, je pourrais tuer quelqu'un dans la rue. À la 5e avenue à New York, il ne m'arriverait rien. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils le soutiendront quoi qu'il arrive pour toujours. Bon. Mais quand même, il y a de plus en plus de gens qui ne supportent pas sa corruption. Et l'affaire du coronavirus a terriblement... il en a terriblement pâti pour une raison simple. C'est que les religieux ultra-orthodoxes, hein, ceux qui ont les papillotes, ont longtemps dit, un peu comme les évangélistes d'ailleurs aux États-Unis, ils ont longtemps dit, mais tous ces confinements, tout ça, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est Dieu qui décide, qui vit et qui meurt. Donc, on n'est pas là pour... voilà. Et il faut que les gens puissent aller à la synagogue. Il faut arrêter... Bon. Et donc, comme il a besoin de ces gens-là dans sa coalition, et qu'ils l'ont menacé, s'il fait s'il décide de faire un nouveau confinement, ils l'ont menacé de quitter la coalition, il s'est retrouvé en minorité. Il n'avait plus de gouvernement. Alors il a fait ce qu'ils ont demandé. Il a tout simplement fait ce qu'ils ont demandé. Ça a choqué énormément de gens. Ça a choqué énormément de gens qui ont dit, mais enfin, en fait, la politique se résume à son intérêt personnel et à son intérêt politique. Il ne prend pas les décisions en fonction des besoins des gens, il prend des décisions en fonction de ses intérêts politiques. Et je pense que ça, plus une dégradation quand même, comme un peu partout, de l'économie, qui touche énormément les gens les plus pauvres et ceux qui sont au seuil de pauvreté. Je pense que tout ça coalisé explique ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai mouvement de détestation, mais qui porte plus contre Netanyahou lui-même que sur un fond politique identifié. En tout cas, c'est pas sur la question palestinienne, malheureusement. Shalom.